Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans l'antre du Ridicule Morbide. Bienvenue chez Murder Wine and Cheese. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop froid. Aujourd'hui, je vous amène une petite affaire qui a pas mal secoué la région où elle s'est déroulée à l'époque. Et si vous étiez là, peut-être que vous vous en souvenez encore. Trêve de mondanité, passons à l'affaire Albert Foulché. D'habitude, je consacre la première partie de l'épisode à la vie du criminel que j'aborde, mais nous ne savons pas grand-chose de la vie d'Albert Foulché. C'est un mec un peu mystérieux. On sait qu'il est né en 1951, qu'il a quitté l'école à 14 ans, qu'il s'est engagé dans l'armée à 18 ans, qu'il s'est marié à 21 ans, et qu'il est devenu ambulancier à ce moment-là. Poussé par une envie d'ascension sociale, il a pris des cours du soir et en 1982, il est devenu assureur à Béziers. Il a alors deux enfants et il a acheté une maison. Mais son rêve devient vite un cauchemar. En effet, pour lui, l'assureur à qui il a acheté son registre de clients, André Meffray, oriente ses anciens clients vers d'autres assureurs, notamment Maurice Michaud. En 1988, Albert finit par jeter l'éponge. Il abandonne les assurances et il commence à pointer au chômage. C'est un gros échec pour lui. Et dans sa vie privée aussi, tout n'est pas rose. Il enchaîne les maîtresses et devient même en quelque sorte le sugar baby d'une certaine Danielle Herrero. Et en 1992, il divorce. La descente aux enfers va continuer, mais Albert a décidé qu'il n'allait pas tomber tout seul. Le 21 janvier 1993, à Païes, près de Béziers, André Meffray, 64 ans, vient de finir de dîner avec sa femme lorsqu'on tape à la porte. André va ouvrir et quelques instants après, il est mort, abattu de 5 balles. Sa femme est à l'étage à ce moment-là et quand elle entend les coups de feu, elle pense que c'est le chien qui a encore renversé des pots de fleurs. Petit aparté, ils font quelle taille ces pots de fleurs? Parce que pour confondre ça avec des coups de feu, et des coups de feu de gros calibre, c'est ce qu'on verra après, c'est des pots de fleurs ou des containers? Enfin bref. C'est des voisins qui alertent les gendarmes et plusieurs témoins ont vu le tireur mais ils sont incapables de dresser un portrait robot. Ils sont néanmoins sûrs de l'avoir vu s'enfuir au volant d'une voiture sombre avec des bandes latérales rouges. Après avoir interrogé les témoins, les enquêteurs fouillent le domicile d'André et découvrent des photos de lui avec le visage tuméfié. L'entourage d'André dit qu'il s'est fait ça en tombant de cheval, mais le médecin légiste est formel, il s'est bien fait tabasser. De plus, André était assez inquiet pour vouloir se procurer une arme pour se défendre un peu avant sa mort. Mais du coup, qui lui faisait aussi peur? Eh bien, l'assureur à la retraite arrondissait ses fins de mois en faisant des placements financiers pour d'anciens clients. Alors les enquêteurs pensent d'abord à un placement hasardeux qui aurait provoqué la colère d'un de ses clients. Cette piste ne donne cependant rien. Tout le monde est content même si les placements d'André sont parfois un peu hasardeux. Les enquêteurs commencent alors à rechercher un éventuel concurrent mécontent. En parallèle, ils interrogent les armuriers de la région et tombent sur un armurier qui a récemment eu un client souhaitant neutraliser un Dan Wesson pour être en règle vu qu'il n'avait plus de permis de détention d'armes. Cependant, ce client a semblé bizarre face à l'armurier qui a eu l'impression qu'il allait de nouveau se servir de l'arme. Ce client, vous vous en doutez, c'est Albert Foulché. En se renseignant sur lui, les enquêteurs découvrent que c'est un narcissiste violent, possédant plusieurs armes avec lesquelles il s'entraîne régulièrement alors que son permis de détention d'armes lui a été retiré. Rapidement, il devient le suspect numéro 1. Albert Foulché est interpellé le 8 juin 1993 alors qu'il sort de chez lui. En fouillant son appartement, les enquêteurs découvrent un sac avec 4 armes de poing, dont une chargée et 2 talkie-walkie. C'est alors qu'Albert, aussi présent dans l'appartement, essaie de s'enfuir, sans savoir qu'un groupe d'intervention est sur le pas de sa porte. Coincé, il reconnaît alors que les armes sont à lui. En même temps, il n'a pas trop le choix. S'ajoute à cela le fait que sa voiture est de couleur sombre et a des bandes latérales rouges. Albert est placé en garde à vue avec son ex-femme Bernadette, son amante Danielle Herrero et une autre amante, Isabelle Suzik. Ça devait être funky dans la salle d'attente. Bref, face aux gendarmes, Albert nie tout, mais Isabelle explique qu'il voulait se venger d'André. En plus de ça, les experts balistiques concluent que les balles qui ont tué André viennent de l'arme d'Albert. Mais ce dernier continue de nier en disant que s'il avait tué André, il aurait choisi une autre arme parce que le Dan Wesson tire mal. S'il le dit, bon. Enfin, Albert n'a pas d'alibi pour le soir du meurtre, car contrairement à ses habitudes quotidiennes, il n'est pas allé voir Isabelle. Le 10 juin 1993, il est placé en détention. En prison, Albert continue de clamer son innocence. Daniel Herrero lui paye ses avocats, mais c'est avec Isabelle qu'il décide de s'engager et de concevoir un enfant dans le parloir. On peut pas arrêter l'amour, hein, vraiment. Isabelle décide ensuite de retrouver la mémoire, comme par hasard, et de dire aux enquêteurs que contrairement à ce qu'elle a dit durant sa première audition, Albert était bien avec elle le soir du meurtre d'André. Le 17 mai 1996, des reconstitutions commencent, mais Albert ne fait qu'y assister. Ces reconstitutions ne sont pas concluantes, notamment parce qu'au bout de 3 ans, les témoins ne sont plus très fiables. En même temps, au bout de 3 ans, je pense que personne ne serait très fiable. De plus, la fiabilité des autres preuves est remise en question puisque 3 des 4 expertises balistiques se contredisent. C'est dans cette incertitude que la chambre d'accusation est légalement obligée de libérer Albert le 22 octobre 1996, parce que en France, on ne peut pas garder les prévenus indéfiniment en détention provisoire en attendant leur procès. Albert sort de prison et s'installe avec Isabelle dans un petit appartement de Béziers avec leur fille qu'ils ont eue, comme je vous l'ai dit, en la concevant dans le parloir. Il vit de petits boulots et continue de clamer son innocence, mais il n'en a pas fini avec la justice. En effet, le 11 janvier 2000, il est de nouveau placé en garde à vue parce que son neveu a attaqué des personnes âgées pour les voler avec un complice, et les gendarmes soupçonnent naturellement Albert, que les victimes finissent par reconnaître. Malheureusement, les enquêteurs n'ont pas assez de preuves et libèrent Albert au bout de 30 heures de garde à vue. 3 jours plus tard, Albert pète son plomb et part en cavale. Le procès d'Albert commence le 23 mars 2000, sans lui. Il est condamné par contumace à la perpétuité et un mandat d'arrêt européen est émis contre lui. Il reste caché pendant quelques mois avant de réapparaître chez Isabelle, disant que la cavale, c'est dur. Il repart au bout de quelques jours mais revient à Noël et dit alors à Isabelle que d'ici quelques temps, il sera riche ou il sera mort. Je vous spoil un peu, hein, mais il sera pas riche. Le 8 janvier 2001, il repart en disant à Isabelle d'aller faire des courses pour fêter la galette des rois avec leur fille. Je ne sais pas s'il croit ce qu'il dit, puisqu'en début d'après-midi, il se rend à Narbonne et tue Pascal Herrero, le mari de son ancienne amante, Danielle. Cette dernière assiste à la scène et appelle la police, qui se rend immédiatement sur les lieux. C'est alors qu'Albert appelle les 2 policiers qui viennent d'arriver, Hervé Prior et Patrick Rigaud, avant de s'enfuir. Moins d'une heure après, il est devant le cabinet d'assurance de Maurice Michaud, celui qu'il soupçonnait d'être de mèche avec André Meffray, la première victime de cette affaire. Il emmène Maurice sur un chemin de campagne et se dispute brièvement avec lui avant de l'abattre. Il s'enfuit ensuite dans la voiture de sa victime et force un barrage de police. Il tire à ce moment-là mais ne touche heureusement personne. Les policiers perdent sa trace et le raid est appelé. Vu le caractère des crimes, plusieurs personnes impliquées dans l'affaire, dont le juge d'instruction, sont placées sous protection. Le 10 janvier, Albert est repéré dans le village des Rives, mais le temps que la police arrive, il s'est déjà enfui. Les enquêteurs apprennent alors que 3 anciens co-détenus l'aidaient dans sa cavale. Le 13 janvier, Albert envoie une lettre à France 3 où il menace toutes les personnes responsables de son malheur. Et le 16 janvier, il est repéré dans l'appartement d'Isabelle, qui est absente à ce moment-là, et lorsque les policiers vont vérifier qu'il est bien là, ils leur tirent dessus. Le raid est rappelé et encercle la zone. Il y a quelques heures de flottement où le raid et la police examinent un peu les lieux en essayant de trouver l'angle sous lequel ils vont attaquer en quelque sorte, mais au matin du 17 janvier, ils découvrent qu'Albert s'est tiré une balle dans la tête, mettant fin à sa cavale sanglante. Les 3 anciens co-détenus et Isabelle Suzik ont été mis en examen pour recel de malfaiteurs et tous, à l'exception d'un homme, ont été condamnés. Puisque le processus judiciaire s'est arrêté, Albert Foulché sera jamais présumé innocent pour le meurtre d'André Meffray. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire sur murderwinecheese.com ou sur Twitter à @mwacpod. Si vous avez le temps, laissez un petit commentaire sur le site ou sur Twitter aussi sur ce que vous pensez de ce podcast. Et si vous voulez me suggérer une affaire qui se passe en France ou qui implique des francophones, je suis tout oui. Et enfin, si vous avez un petit euro, s'il vous plaît, à dépenser dans quelque chose que vous voudriez voir se développer, eh ben, j'ai une page de dons sur le site. Et j'aimerais pouvoir m'acheter un nouveau micro pour vous proposer du meilleur contenu aussi, pouvoir acheter des bouquins, pouvoir vous proposer quelque chose de mieux, quoi. Donc n'hésitez pas si jamais vous pouvez. Mais si vous pouvez pas, un petit commentaire, c'est très bien aussi, hein. Vous pouvez me faire des compliments, j'adore les compliments. Bref, je vous dis à la prochaine, j'espère que vous trouverez un billet de 10 par terre pour égayer votre journée. Salut !